Bonjour à tous, merci d'être au rendez-vous du grand face-à-face de France Inter comme tous les samedis. Un grand face-à-face extra large, c'est la première d'une série d'émissions hors les murs et en public. Première étape d'un Tour de France pour aller au plus près des citoyens et pour ouvrir le dialogue, pour vous donner la parole également. 2 heures pour prendre le temps de faire vivre le débat d'idées, la controverse autour de quelques-uns des grands enjeux qui traversent notre société à 7 mois maintenant de l'élection présidentielle. Cette semaine, le grand face-à-face XXL est installé à Arras. Mes camarades Natacha Polony et Gilles Finkelstein sont à mes côtés. On peut les accompagner. Et c'est vous qu'il faudrait applaudir, vous qui êtes nombreux dans le public, merci infiniment de nous avoir rejoints dans la salle des fêtes du Beffroi d'Arras. Bonjour et merci pour votre accueil. Vous interviendrez tout à l'heure, évidemment. Dans un instant, le duel autour de quelques-uns des temps forts de la semaine avec Gilles et Natacha. Et puis, un sujet qui divise, un sujet qui s'est imposé dans l'espace public depuis ces dernières années, la laïcité. La laïcité en débat avec notre invitée. On a pu la présenter comme une irréductible républicaine. Elle est journaliste, essayiste, réalisatrice. Son dernier livre, Génération offensée, est un best-seller traduit en plusieurs langues. Caroline Fourest nous rejoindra dans une vingtaine de minutes et vous pourrez évidemment dialoguer avec elle.
Le grand face-à-face, émission spéciale en public à Arras, Ali Badou.
Le duel entre la directrice de Marianne, Natacha Polony, et le directeur de la fondation Jean Jaurès, Gilles Finkelstein. Salut à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour Arras.
Et bonjour Arras. On va commencer en quittant la France pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté du Rhin chez nos voisins.
Pour le dire simplement, l'Allemagne est un pays fort et nous avons déjà affronté ce genre de situation. Nous y arriverons une fois encore, nous y arriverons.
C'était il y a 5 ans, le 31 août 2015, Angela Merkel qui annonçait que son pays allait ouvrir grand ses frontières aux dizaines de milliers de réfugiés qui se pressaient sur la route des Balkans devant un parterre de journalistes. Elle prononçait ces mots que je vais dire dans mon très mauvais anglais. Wir schaffen das, nous y arriverons. C'est quelques mots qui sont rentrés dans l'histoire et on se souvient tous de ces images des enfants, notamment à qui les Allemands tendaient des peluches, des centaines de migrants applaudis à leur sortie des gares de toute l'Allemagne. C'était en 2015 et ça semble si loin. Dimanche, les Allemands diront au revoir à Mouti après 16 ans à la tête de la chancellerie. Angela Merkel tire sa révérence et les Allemands vont voter des élections qui vont permettre de connaître le successeur de celle qui s'est imposée comme la femme forte de l'Europe. Natacha, qu'est-ce que vous pensez de ce moment politique ?
C'est un moment politique majeur, en effet, parce que Angela Merkel a joui d'une longévité absolument rarissime. Elle était un peu en difficulté juste avant le coronavirus, un peu affaiblie, et finalement, sa gestion de la crise lui a redonné une aura que l'on voit aujourd'hui. Et même en France, moi, ce qui me frappe, c'est la capacité de la presse française à considérer de manière totalement hagiographique le bilan d'Angela Merkel, alors même qu'il serait intéressant de l'observer non seulement du point de vue allemand, mais du point de vue français. C'est-à-dire qu'il y a des critiques, et on les lit tout de même dans la presse allemande, et il y a aussi des questions à se poser de notre point de vue à nous, mais de même que, d'ailleurs, les enjeux de cette élection allemande sont très peu traités véritablement dans la presse française, de même, on ne se demande pas ce qu'a fait réellement Angela Merkel. On peut tout de même se poser la question de son très fort attentisme, de sa façon de gérer le tout venant et le présent sans jamais anticiper sur l'avenir, sa façon d'amplifier une politique qui est celle des intérêts allemands sans penser réellement aux enjeux européens. Et on voit que cela risque de se poser de façon beaucoup plus cruciale avec ses successeurs. C'est-à-dire que on a un peu un résumé assez facile en France qui consisterait à dire si c'est le SPD, on aura les dépenses qu'on veut, mais on n'aura pas la défense européenne. Si c'est la CDU, ce sera l'inverse. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça et ça risque d'être très difficile. Et je pense que la question des rapports franco-allemands devrait être un des éléments majeurs de la campagne présidentielle française. Je crains que ce ne soit pas du tout le cas.
Gilles Finkelstein.
Nous y arriverons, disait Angela Merkel il y a 5 ans. Ils y sont assez largement arrivés, à tel point à réussir l'intégration de ce million d'étrangers, d'immigrés, de réfugiés de 2015, à tel point que la question de l'immigration est une question secondaire dans cette campagne. Si on se tourne non pas sur le passé et sur le bilan d'Angela Merkel, mais sur la campagne et sur l'avenir, ce qui se passe est évidemment important pour l'Allemagne, mais c'est évidemment important pour la France et pour l'Europe au moment où nous avons des investissements très importants à faire sur la transition climatique, de nouvelles règles à établir sur le budget, des questions à nous poser sur la défense européenne. Et quand on regarde la campagne depuis maintenant plusieurs mois, je crois que ce qui s'y passe est très intéressant, y compris pour nous. Vous l'avez dit, Ali, on est à...
Parce que la campagne présidentielle a commencé et que nous allons voter dans 7 mois.
La campagne présidentielle a commencé et qu'il y a des échos. Je trouve que dans une large mesure, ce qui se passe en Allemagne est une forme d'alignement de la démocratie allemande sur les autres démocraties. La volatilité est incroyablement forte. Au début de cette campagne, la CDU, le parti d'Angela Merkel, était très très loin devant. Il a perdu 15 points. Le SPD, le parti social-démocrate, était très très loin derrière. Il a gagné 10 points. Et aujourd'hui même, alors que les Allemands votent demain...
Ils votent demain pour renouveler donc les membres du Bundestag.
Aujourd'hui même, il y a le tiers des Allemands qui ne savent pas encore pour qui ils vont voter. Donc, comme dans les autres démocraties, volatilité très forte. Deuxièmement, comme dans les autres démocraties, une fragmentation du paysage politique extrêmement forte. Il y avait auparavant deux partis qui dominaient tous les autres, qui faisaient à eux deux 70-80% des voix. Il y aura aujourd'hui 3 partis très importants et 3 partis de second ordre. Enfin, personnalisation très importante de cette campagne. Alors même que, contrairement à la France, on n'élit pas directement, les Allemands n'élisent pas directement le chancelier, malgré tout, les idées, je crois que Natacha a raison de dire ça, les idées sont passées au second plan, et c'est la personnalité des candidats qui, pour l'essentiel, a expliqué ces variations de campagne. Donc, pour beaucoup, il y a un alignement de la démocratie allemande sur les autres, mais il y a quand même aussi, on y reviendra, des singularités, notamment pour nous Français.
Natacha Polony.
Oui, il va y avoir aussi une difficulté pour nous Français, qui est que ce qui risque de ressortir de cette élection, c'est le fait qu'on n'aura pas tout de suite le nom du chancelier. Il faut se souvenir qu'en 2017, il avait fallu 171 jours pour avoir enfin une coalition cohérente. Et le problème, c'est que déjà à l'époque, Emmanuel Macron avait assez mal calculé le moment de son discours très important à la Sorbonne sur l'Europe, c'est-à-dire qu'il espérait une réponse allemande qui ne pouvait pas venir puisqu'il n'y avait pas de gouvernement. Or là, nous risquons d'avoir la même chose, c'est-à-dire que Emmanuel Macron mise énormément sur son rôle de la présidence française de l'Union européenne, pour des raisons qui ne sont pas que nobles, c'est aussi parce que en pleine campagne électorale, il va falloir donner l'impression qu'Emmanuel Macron a un grand projet, une fois de plus, pour l'Europe. Il risque de ne pas avoir de réponse en face et il risque au contraire de se retrouver avec une coalition qui inclura notamment des Verts assez, même s'ils sont ne sont pas aussi hauts qu'on le pensait, assez puissants, dans un moment où nous sommes en train de négocier à Bruxelles face aux Allemands, l'avenir de la filière nucléaire française, l'avenir de l'industrie de défense aussi. Il y a des tensions de plus en plus fortes sur la question de l'avion du futur avec l'Allemagne. Bref, ce qui va ressortir de ces élections est important. Je dirais que ce qui est encore plus important, c'est la question de savoir si les dirigeants français ont pris conscience du fait que le couple franco-allemand est une sympathique façon de présenter en fait un rapport de force dans lequel il s'agit de ne pas être totalement naïf.
Suite de votre analyse, Gilles, après les ressemblances et différences.
Alors, les différences, surtout les différences pour nous, Français. Il y en a une qui découle de ce que vient de dire Natacha. En France, une élection présidentielle, c'est un moment de confrontation. En Allemagne, une élection est suivie nécessairement par un compromis et par la constitution d'une coalition. Ce qui est certain, quel que soit le résultat que l'on ne connaît pas. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas un parti qui sera en situation de gouverner seul. Ce qui est probable, c'est qu'il n'y aura pas 2 partis, même les 2 plus gros, s'ils font une coalition, qui auront une majorité à eux deux. Et donc, il semble qu'on se dirige vers une coalition au moins à trois, d'où ce que l'on a vécu dans la précédente, au moment de l'élection d'Emmanuel Macron, et ce que l'on risque de vivre à nouveau au moment où la France exercera la présidence française, la présidence de l'Union européenne, c'est-à-dire des mois et des mois et des mois pour constituer une coalition. Normalement, le chancelier sera issu du parti qui arrivera en tête, mais ce n'est pas acquis. Et la deuxième différence par rapport à la France, très importante, c'est que en France, une élection, c'est d'abord un moment de rupture, un moment de changement. Cette élection en Allemagne, c'est une élection de continuité. Parce que Angela Merkel a 80% de popularité.
80% de popularité. 80%,
parce que pour la première fois, le chancelier allemand a décidé de ne pas se représenter. Et que, ce faisant, tous les candidats essayent de s'inscrire dans les pas d'Angela Merkel. Et le paradoxe est que Olaf Scholz, qui est le candidat du SPD, donc social-démocrate, eh bien, c'est lui qui a réussi au prix d'une transgression étonnante, à la fois politique et symbolique, à être celui qui apparaît comme étant le continuateur d'Angela Merkel. Vous savez quel était le slogan de son affiche ? Il peut être chancelière.
Il peut être chancelière. Les Allemands votent demain. Le duel continue.
Le grand face-à-face. Le duel.
Nous aurions, depuis le début de la rentrée, cramé la caisse, laissé filer les déficits, dépensé sans compter, pratiquer la politique du chéquier. Mensonge. Mensonge. Toutes les dépenses qui ont été annoncées soit par le président de la République, soit par le Premier ministre, nous les avions anticipées et annoncées avec Olivier Dussopt depuis juillet. Nous sommes, je le redis, des gestionnaires sérieux, des gestionnaires responsables, attachés à la maîtrise des finances publiques.
C'était Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, qui présentait cette semaine, mercredi, le projet de loi de finances de 2022, le dernier du quinquennat d'Emmanuel Macron. Un discours où il n'était pas question d'impôts, mais qui était un discours qui défendait la politique menée et cette idée qu'il n'était pas quelqu'un qui aurait cramé la caisse, le président de la République, le gouvernement, qu'il n'y avait pas eu de dépenses sans compter, je cite Bruno Le Maire, de politique du chéquier. Gilles Finkelstein, vous vouliez revenir sur ce sujet, pourquoi ?
Ouais. Alors, on pourra revenir sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron sur la politique économique et fiscale, et peut-être réfléchir aussi aux enjeux qui sont derrière. Mais si on est simplement sur ce moment, la présentation de ce budget, on sort d'une crise sanitaire dans laquelle des sommes folles, légitimes, mais des sommes folles ont été engagées et qui ont beaucoup bousculé nos repères. Je crois qu'on est... C'était le quoi qu'il en coûte. Et nous sommes, je crois, dans un moment de laisser-aller. De laisser-aller du gouvernement, peut-être pas cramer la caisse, comme le dit Bruno Le Maire, mais de laisser-aller sur la forme. Pour la première fois, un budget a été présenté sans que des dépenses essentielles couvrant des milliards d'euros aient été incluses dans le budget. Je pense aux dépenses du programme d'investissement ou aux revenus d'engagement pour les jeunes. Ce n'est pas encore arrêté, ce n'est pas dans le budget, à tel point que le Haut Conseil aux finances publiques, qui est un organisme indépendant chargé d'émettre un avis sur le budget, a considéré que le document était incomplet, daté et tardif, je le cite, et n'a pas pu s'exprimer sur la sincérité du déficit. Donc, laisser aller sur le fond, sur la forme, laisser aller aussi sur le fond. On est quand même dans un moment dans lequel les milliards coulent à flot, dans un mélange de pragmatisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de dépenses, je crois, qui prises une à une sont tout à fait légitimes et répondent à des nécessités, et puis d'opportunisme, parce qu'il n'a échappé à personne que nous sommes à quelques mois d'une élection présidentielle. Donc, je termine juste d'un mot, laisser aller du gouvernement, mais laisser aller des candidats. Vous regardez les uns et les autres, là aussi, les milliards tombent, et laisser aller des Français. Quand on regarde la hiérarchie des préoccupations des Français, et qu'on les compare à celles des campagnes précédentes, il y a 10 ans, les déficits, la dette, c'était une des préoccupations majeures. Là, c'est une préoccupation beaucoup plus secondaire. Là aussi, la crise sanitaire est passée par là et les repères ont bougé.
Natacha.
Oui, clairement, les repères et la façon de penser ces dépenses ont bougé. On ne peut pas quand même en faire grief aux Français à qui on a expliqué pendant des années qu'il n'y avait pas d'argent, qu'il fallait serrer la ceinture, que l'austérité était nécessaire, alors même que cette austérité plombait la croissance. Et tout à coup, en effet, on a trouvé l'argent. Évidemment qu'on connaît tous les mécanismes qui permettent cela et que c'est tout à fait légitime, mais il y a là un paradoxe. Surtout, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point les dépenses actuelles sont catégorielles, ce qui laisse penser tout de même qu'il y a là des visées électoralistes un petit peu problématiques. Et d'ailleurs, on était cette semaine dans un grand moment de communication pré-électorale, c'est-à-dire qu'on avait à la fois ses dépenses et puis une communication gouvernementale sur les baisses d'impôts. Par exemple, le Parisien, le 21 septembre, publiait un petit graphique fourni clé en main par la Direction générale des finances publiques de Bercy pour expliquer que les baisses d'impôts avaient bénéficié à tous les Français qui avaient gagné du pouvoir d'achat et surtout quelques secteurs les plus pauvres, hein, les mères célibataires gagnant 30 000 euros, alors qu'un cadre sup, lui, n'avait pas gagné tellement plus. En fait, ils ont juste oublié dans leur calcul d'intégrer tous ceux qui ont bénéficié de la transformation de l'ISF en impôt sur la fortune mobilière, l'imposition forfaitaire des revenus mobiliers, qui montre qu'en fait, ceux qui ont le plus gagné, c'est quand même les très 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 riches. Mais ça, curieusement, ça n'apparaissait pas dans le graphique. Et donc, on se retrouve avec une communication qui consiste à dire vous allez avoir tous de l'argent en fonction de ce que vous voulez, vous en avez tous eu avant et évidemment Emmanuel Macron a permis d'enrichir, d'aider notamment les classes moyennes et les classes populaires, sans que jamais on ne voit réellement de cohérence, sans qu'on ne rappelle qu'il y a eu une politique qui au fond était une politique pas si sociale que ça et qui n'a créé aucun emploi puisque ces sommes-là ne sont pas allées dans l'économie productive.
Gilles Finkelstein qui lève les yeux au ciel.
Non, le bilan du quinquennat sur le plan économique et fiscal n'est pas si simple à établir parce que, chacun l'a vu, il y a eu des temps extrêmement différents dans ce quinquennat. Chacun se souvient qu'au tout début, tout de suite après l'élection d'Emmanuel Macron, un des premiers actes qui a marqué l'opinion était une économie de 100 millions d'euros sur les APL pour les étudiants. Cette semaine, ou les derniers jours, on a eu 10 milliards de dépenses supplémentaires. Si on essaye de ramener ces chiffres qui sont abstraits au niveau d'un foyer, de nos économies à nous, ça veut dire qu'au début du quinquennat, nous nous disions que dans l'année, il nous manquait 1000 euros et qu'il fallait faire attention. Et que 5 ans plus tard, alors que les choses n'ont pas fondamentalement changé, nous pouvions dépenser 100 000 euros supplémentaires. C'est dire le changement de monde qui s'est opéré en 5 ans. Après, le bilan, il est difficile parce que d'un côté, il faut reconnaître que la croissance... Alors évidemment, il y a eu un choc avec la crise sanitaire, mais la croissance est plutôt, est très forte. C'est sans doute la croissance la plus forte de ces 50 dernières années.
On n'a pas rattrapé ce qui était notre niveau d'avant Covid.
Bien sûr, que le chômage, malgré tout, baisse un peu, que les impôts, globalement, ont baissé de 50 milliards, dont 25 milliards pour les ménages, mais d'un autre côté, que le procès en injustice qui est instruit par la gauche pour les raisons qu'a évoquées Natacha est juste, et que le procès en laxisme qui est instruit par la droite pour les raisons qu'on a invoquées est juste aussi. Et je conclue en disant que je crois que la leçon qu'on doit en tirer, c'est qu'il ne faut pas que ce débat économique passe à la trappe dans l'élection présidentielle. Bercy a fait ce qu'il est obligé de faire chaque année, c'est-à-dire qu'on envoie à Bruxelles des prévisions pour les 5 prochaines années. Et donc, dès l'année prochaine, il y a de très fortes réductions de dépenses publiques qui sont annoncées, on ne sait pas où. Le président du Conseil d'analyse économique a expliqué il y a eu beaucoup de sucré. Il va falloir qu'il y ait un peu de salé. Et donc, il faut que ce débat il ait lieu. Quel est l'objectif dans les 5 ans qui viennent? Quel est le niveau de dépenses, de dettes qui est soutenable? Est-ce qu'il faut qu'il y ait plus de dettes parce qu'il y a le climat? Est-ce qu'il faut qu'on stabilise? Est-ce qu'il faut réduire? Il faut avoir ce débat-là.
Le sucré salé, après l'émission de François-Régis Gaudry, ça a s'imposé. Dernier moment du duel avant de retrouver Caroline Fourest.
Le grand face-à-face, le duel.
Les États-Unis n'ont pas d'alliés plus proches ou plus fiables que l'Australie. Nos nations sont solidaires depuis très très longtemps. Et nous pouvons compter les uns sur les autres. Nous sommes reconnaissants que notre partenariat ait permis d'accomplir ce que nous avons accompli ensemble pendant 70 ans.
Le président américain Joe Biden qui participait à une visioconférence avec les premiers ministres australiens Scott Morrison et britannique Boris Johnson. C'était il y a quelques jours depuis la Maison Blanche. Il y a évidemment des tensions, mais malgré tout un réchauffement depuis cette semaine, depuis mercredi entre Paris et Washington, puisque Emmanuel Macron et Joe Biden se sont parlé avec un échange téléphonique qui est perçu comme une première étape de la réconciliation. On peut dire ça comme ça, Natacha? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait rire?
Non, mais on a tous compris qu'il s'agissait d'une façon très sympathique d'habiller une déculottée. C'est-à-dire que on a quand même un communiqué d'une hypocrisie totale pour nous expliquer que les relations entre la France et les États-Unis sont formidables, qu'on s'aime d'amour, que la place de la France et de l'Europe dans la zone Indo-Pacifique est essentielle. Et en fait, tout est dans les nuances de ce communiqué. C'est-à-dire la place de la France et de l'Europe, c'est une façon de dire que la France, seule avec son espace maritime, qui est le deuxième au monde, ce qui est absolument majeur, n'a pas vocation en fait à être la seule, c'est avec l'Europe. Et derrière, on a la petite sucrerie, là aussi, c'est l'idée que tout ça se fait sur la base d'une défense européenne en collaboration avec l'OTAN. Alors là, vous avez énormément de gens en Europe qui sont en pamoison en expliquant que ça y est, c'est formidable. Enfin, il y a l'idée d'une défense européenne, puisque c'est en collaboration avec l'OTAN, alors qu'avant c'était au sein de l'OTAN. On se marre. C'est-à-dire, c'est une façon de permettre à Emmanuel Macron de sauver la face. Concrètement, nous avons perdu non seulement ce contrat, mais le partenariat qui allait avec. Et il faut lire la tribune de l'ancien Premier ministre australien dans Le Monde, qui tire à boulet rouge sur le choix de son pays en expliquant que c'était pas seulement un contrat d'armement, c'était un partenariat stratégique qui permettait justement d'échapper à l'inféodation aux États-Unis. Donc tout ça disparaît et la France ferait bien de s'intéresser largement, par exemple, à ce qui est en train de se passer en Nouvelle-Calédonie. Ça passe totalement à l'as. Or, le référendum en Nouvelle-Calédonie est important parce que derrière, il y a la place de la France et de son espace maritime.
Gilles Finkelstein.
Oui, ce qui s'est passé avec ce contrat est un événement peu commun. Peu commun par l'ampleur de ce contrat, peu commun par la brutalité de la rupture et peu commun par la brutalité et la virulence des réactions. Vous dites un réchauffement, c'est un petit réchauffement après une grosse tension. Il faut essayer de démêler les fils et on n'y est pas encore complètement, et donc il faudra le faire de ce qui s'est passé. A priori, il semble quand même que ce ne soit pas une décision technique qui a été prise, au sens où le choix final du sous-marin à propulsion nucléaire américain va arriver plus tard, va coûter plus cher et sera plus bruyant. Donc c'est une décision pour partie économique, c'est plus de 50 milliards qui sont en jeu, mais surtout stratégiques. Et du point de vue, si on se place non pas du point de vue français, un instant, mais si on se place du point de vue australien, qui sont malgré tout les premiers concernés, d'une certaine manière, le choix qui est fait est compréhensible. L'Australie est un pays de taille moyenne qui a un très gros voisin, la Chine, et qui a un voisin qui est très pressant et même qui est très oppressant, qui exerce des pressions absolument considérables sur elle, et l'Australie est un pays qui résiste à la Chine. Bon, et donc, au moment où il faut nouer une alliance, eh bien, quand les États-Unis arrivent, eh bien, ils sont plus gros que la France. La question est, quelles sont les leçons que nous devons en tirer? Et je crois qu'il y a une première leçon qui est une leçon de lucidité. Lucidité sur les États-Unis, leur fiabilité est faible, leur habileté est à peu près nulle,
oui.
Mais lucidité aussi sur nous. Nous sommes une grande puissance, contrairement à ce que l'on dit, mais nous ne sommes pas une superpuissance. Et donc, quand le jeu se durcit, eh bien, à ce moment-là, et donc, quelle est la conclusion qu'on en tirait? C'est lucidité et de la continuité pour essayer petit à petit de construire cette Europe de la défense. C'est difficile, mais si on ne le fait pas, eh ben, c'est pas encore en se retirant tout seul, en sortant de l'OTAN comme cela a été évoqué, qu'on y arrivera.
On reprendra évidemment ce débat. On a du mal à penser que nous ne sommes pas une superpuissance ici dans la grande salle des fêtes d'Arras où tout inspire justement la grandeur et la force. À suivre dans le grand face-à-face version XXL, le débat avec Caroline Fourest.
France Inter, le grand face-à-face, le débat.
Le grand face-à-face XXL à Arras et place maintenant au débat avec notre invitée. Elle est journaliste, essayiste, réalisatrice et le thème du débat cette semaine, elle le connaît par cœur, elle s'y est investi corps et âme. C'est un sujet qui divise et qui sera probablement, sans doute, dirait Jill Finkelstein, l'un des enjeux de la campagne présidentielle qui commence. Il y a beaucoup à en dire, beaucoup à en attendre. Bonjour Caroline Fourest.
Bonjour.
Et bienvenue à Arras. Merci de nous avoir rejoints. Est-ce que 7 mois avant la présidentielle, pour la paix civile, pour la paix des esprits, est-ce qu'il faut redouter de débattre de la laïcité ?
Mais si on débattait vraiment de la laïcité, je pense qu'on arriverait au contraire à apaiser les esprits. J'ai peur que le débat soit déjà parti bien, bien au-delà. Et tombe facilement dans, au contraire, des simplifications, des passions tristes. On parle beaucoup trop de choses très, très caricaturées, très simplifiées, comme la religion de l'autre. C'est pas un débat sur la laïcité, la religion de l'autre. Le prénom de l'autre, c'est pas un débat sur la laïcité. J'aimerais bien qu'on parle de laïcité plutôt.
Et alors justement, on va en parler. On va aussi parler des faux débats. Et puisque nous sommes en public, et je remercie encore chaleureusement le public d'Arras présent au grand beffroi d'être avec nous, tous les membres du public sont là et ils pourront dialoguer évidemment avec vous, Caroline, tout à l'heure. Lorsque vous parliez de ces faux débats, ils sont portés par qui ? Que les choses soient claires.
Ils sont portés par une vision identitaire, intolérante. Ils sont portés aujourd'hui par, évidemment, Éric Zemmour, par Marine Le Pen, qui peuvent s'abriter temporairement derrière le drapeau de la laïcité. Mais d'abord, c'est un drapeau très récent pour ce camp-là, parce qu'en fait, ils sont les purs représentants de la vieille droite cléricale qui a toujours combattu la séparation. Mais comme cette laïcité est devenue très populaire, qu'elle est extrêmement aimée des Français, elle est aujourd'hui, elle sert de paravent aux vieilles idées, aux vieilles recettes, aux vieilles passions tristes. Et c'est là où elle peut être malheureusement prise dans cet amalgame qu'ils sont en train de former. Donc,
instrumentaliser, vous utiliseriez le mot ?
Oui, bien sûr, instrumentaliser, mais surtout très mal utilisée, très mal comprise, très mal employée, parce qu'encore une fois, il ne s'agit pas de l'esprit de la séparation. Quand on entend ces représentants-là de l'ancienne droite cléricale nous dire que c'est au fond le christianisme que l'on devrait remercier pour nous avoir offert comme un cadeau tombé du fruit et de l'arbre. La séparation, c'est une réécriture tellement grossière de l'histoire de France qu'on a envie de renvoyer tout le monde à ses études et ces politiques-là et ces politiciens-là en priorité, parce qu'évidemment que la séparation n'est pas un cadeau du christianisme, ça a été un combat des républicains antiracistes, je précise aussi, c'est un peu oublié de leur époque, qui se sont battus pour justement protéger les minorités religieuses et apaiser les esprits contre les ingérences violentes de l'Église catholique et ses coups de boutoir contre nos libertés et contre l'égalité. Donc ça a été un combat sanglant, très difficile.
Natacha Polony.
Je pense que le problème vient du fait que la laïcité que tout le monde avait oubliée pendant très très longtemps a ressurgi au cœur du débat public en étant capturée par à peu près tout le monde. C'est-à-dire que c'est devenu une forme d'étendard que chacun tord dans le sens qu'il veut. Moi, j'ai le souvenir d'avoir travaillé sur le centenaire de la loi de séparation des Églises et de l'État en 2005. Ça n'intéressait personne à l'époque. C'était très difficile de mobiliser. Il faut se souvenir en effet que le Rassemblement national était farouchement contre la loi de 2004 sur les signes, l'interdiction des signes religieux à l'école, et que donc tout cela a bougé. En fait, ça bouge quand même un peu avant la période dont je parle. Pourquoi ? Parce que il y a eu tout à coup un débat à gauche qui a révélé qu'en fait, le sens même de la laïcité avait été perdu par une part de la gauche. Je pense que ça se manifeste en 1989, au moment de la première affaire du voile à Creil, où les professeurs qui s'opposent à ce que des jeunes filles gardent leur voile dans la classe, des professeurs qui étaient de gauche républicaine, farouchement, et c'est au nom de l'idéal d'émancipation par le savoir qu'ils refusaient cela, se sont vus traités de racistes par d'autres gens de gauche. Et il y a eu cette fracture qui a petit à petit gangréné la totalité de l'espace politique, alors qu'il faut bien rappeler que la loi de 1905 ne résume pas la laïcité. C'est un des éléments de la laïcité, qui d'ailleurs le mot n'apparaît pas dans la loi de 1905. La laïcité, c'est un principe d'organisation de l'espace public qui découle logiquement de 1789 et de l'idéal du peuple souverain. Puisqu'en fait, c'est la proclamation de 1789, c'est le fait que les êtres humains peuvent s'organiser entre eux et décider de leur destin sans référence à une transcendance. Donc la logique de cela s'est imposée petit à petit et a découlé sur la loi de séparation des églises et de l'État, mais sur l'ensemble de l'organisation de la société française.
Caroline Forest.
Oui, et la fracture qui est apparue au sein des gauches, elle s'explique par le fait que la menace fondamentaliste, qui a toujours mis en danger cette séparation. Avant, elle était portée au nom du catholicisme et aujourd'hui, elle l'est aussi au nom parfois de l'islam. Elle est beaucoup plus difficile à combattre lorsque elle peut prendre le visage du minoritaire. C'est-à-dire qu'en fait, toute la résistance laïque était tout à fait soudée et lucide dès qu'elle voit ses coups de boutoir venir de la religion majoritaire, en tout cas de la religion qui apparaît comme majoritaire, et la gauche est perdue quand les mêmes menaces, les mêmes coups de boutoir, les mêmes demandes en fait de transactions viennent au nom du minoritaire et en plus avec le chantage effectivement de l'accusation du chantage à l'islamophobie. C'est pour ça que le camp laïque et progressiste est un peu fracturé. Très honnêtement, je pense et je suis convaincue qu'il existe dans ce pays profondément une gauche républicaine et une droite républicaine qui en font partagent ce trésor commun de considérer que la laïcité doit s'appliquer à tous, d'où qu'elle vienne, quelle que soit sa religion. Et c'est au fond la vision la plus égalitaire qui soit. Mais en route, on a perdu des gens à cause de ce changement du majoritaire au minoritaire qui les a déboussolés.
Quand vous dites « on », c'est la militante qui parle?
Oui,
qui
on a
vu non, certains c'est le, de ses camarades
c'est
de combat.
C'est le camp de la République et de la laïcité.
S'éparpillé.
Oui, et puis on a subi des procès d'intention très violents et très difficiles. C'est-à-dire que quand vous connaissez l'histoire de ces batailles et que vous vous replongez dans le climat, par exemple, de ce qu'a subi un Émile Combes pour avoir essayé de lutter contre les fondamentalistes, contre les congrégations religieuses et de protéger l'école publique et laïque, quand vous savez ce que Ferdinand Buisson a vécu pour avoir voulu une école qui, justement, ne combat pas, il le disait bien, ne combat pas la foi, mais combat la haine dans le cœur des élèves... Vous savez que ce que nous vivons, mais ce que nous avons vécu au moment, par exemple, de la bataille de 2004 sur les signes religieux à l'école publique, s'inscrit très exactement dans la suite de cette histoire. Nous avons vécu les mêmes procès d'intention. Alors à l'époque, on ne parlait pas de christianophobie, mais les intégristes parlaient d'écoles sans Dieu, qu'on voulait absolument tuer leur culture, leur religion. Aujourd'hui, ils disent, vous êtes musulmanophobe, vous êtes islamophobe plutôt. Mais c'est la même histoire. Ça, c'est une vision universaliste. Et puis, il y a ceux qui pensent que quand on change de religion, ça change le sens de l'histoire et que ça n'est plus le même chapitre. Et là, vous avez les civilisationnistes qui veulent en faire...
Civilisationniste, définition, avant de donner la parole à Gilles.
Ceux qui veulent en faire une guerre des civilisations et qui veulent en faire une crispation identitaire et qui se repaissent de, encore une fois, ces simplifications consistant à croire que c'est une question de culture ou de religion. Non, c'est un combat historique, c'est un combat philosophique. Et quand on parle de combat philosophique, il y a des solutions. Parce qu'en fait, il y a une idée qui peut nous rassembler au bout du chemin. Quand on est sur un mode civilisationnel et identitaire, il n'y a rien au bout du chemin, à part la guerre.
Et on verra ce qu'en pensent certains des enseignants qui sont dans le public ici, dans le grand beffroi d'Arras tout à l'heure, puisque ils pourront dialoguer avec vous. Un micro circulera dans la salle. Gilles Finkelstein.
Oui, Ali, vous vous demandiez si le débat sur la laïcité pouvait menacer la paix civile. L'historien Patrick Veil a publié il y a quelques mois un petit livre qui est une histoire de la laïcité et qui se replonge notamment dans les débats de la loi de 1905 et des combats qui ont suivi. Et on mesure à quel point ces combats ont été âpres, mais on mesure aussi à quel point décennie après décennie, cette loi a fini par faire consensus. Et le mot laïcité est aujourd'hui un mot qui rassemble très largement les Français. Mais la chose, depuis 30 ans, Natacha Polony le soulignait, depuis Creil, depuis 1989, la chose, par sujets successifs, divise ce pays. Et la question que je voudrais peut-être poser à Caroline Fourest est la suivante. Vous disiez qu'il y a une droite identitaire. Est-ce que, en élargissant la question au-delà de la laïcité, mais est-ce qu'il y a aussi une gauche identitaire? Et est-ce qu'on ne risque pas de se trouver dans une situation dans laquelle, ce que l'on connaît dans beaucoup de pays, le vote n'est plus un élément constitutif de son identité, mais c'est son identité qui de plus en plus détermine son vote?
Caroline Fourest.
Oui, bien sûr, j'ai la raison de poser cette question parce qu'elle est au cœur de mon dernier livre sur Génération offensée et elle est à la source de mon alerte. J'avais alerté il y a des années une partie de la gauche sur sa tentation de déni vis-à-vis du danger islamiste et là j'ai essayé d'alerter sur le fait que si on prend le chemin d'engouffrer toute la gauche dans des passions identitaires comme celles que l'on peut voir aux États-Unis, celles qui ont fracturé encore une fois la dernière campagne américaine, qui a vécu un degré de polarisation extrême, où d'un côté une gauche qui n'emploie que des catégories identitaires, ou qui ne légitime le débat que sur la base des identités, a fait le jeu. Et Donald Trump n'est pas repassé de justesse, alors qu'il avait un bilan monstrueux. Mais parce que ces catégories identitaires, même quand on les souffle au nom du bien, même quand on est animé de la meilleure des bonnes volontés et qu'on le fait au nom de l'antiracisme ou du féminisme, si on est porteur de catégories qui racialisent les autres, qui les enferment, qui les assignent et qui les réduisent à l'identité, à un moment donné, il y a toujours quelqu'un en face qui se réveille, qui dit « Mais moi aussi j'ai une identité, moi aussi je me sens opprimé ». Et je vais parler plus fort que vous.
Mais cette conflictualité qu'on a vue s'exprimer aux États-Unis ces dernières années, vous pensez qu'on pourrait la vivre et la voir arriver en France ?
Mais on va la vivre, Ali, on la vit déjà.
On va la vivre.
Bien sûr, la polarisation, c'est un phénomène des sociétés postmodernes qui est lié considérablement à l'explosion de du fait que l'on s'informe et que l'on se politise via les réseaux sociaux. Nous n'avons pas mesuré l'impact sur nos cerveaux, sur nos représentations. Nous n'avons pas mesuré à quel point ça peut flatter chez nous le pire. Ça flatte des choses merveilleuses, mais nous sommes tous ramenés, submergés par la masse d'informations dans laquelle on se débat, à essayer de trouver une tribu la plus proche de nous-mêmes, qui par des biais de confirmation va nous radicaliser, qui va nous éloigner de la possibilité du débat contradictoire. Et dans cet océan de désinformation et de manipulation dans lequel nous baignons, il y a en plus des gens qui savent très très bien manipuler les esprits, manipuler la vérité. Et quand on ne distingue plus le vrai du faux, là aussi, c'est plus les passions identitaires de l'époque, forcément, le débat devient très compliqué. Aux États-Unis, il y a une partie de l'Amérique qui ne croit toujours pas que Joe Biden a gagné l'élection. Moi, je crains franchement, parce que c'est une question de temps, qu'en France, vous voyez la fracture dans laquelle nous sommes, sur la question sanitaire, ne serait-ce que sanitaire, mais pas seulement. Je crains que nous vivions déjà dans des vérités différentes, et qu'au bout du compte, nous soyons aussi capables de se déchirer pour savoir si le résultat d'une élection est fiable.
Natacha Polony.
Je crois qu'il y a un point qui apparaît clairement, qui est le fait que nous sommes pris dans une tenaille entre, d'un côté, un retour du religieux face à une société comme la nôtre qui était en voie de sécularisation, et ce retour du religieux, et notamment d'une religion, l'islam, qui est dans une voie d'amplification de sa dimension la plus littéraliste et qui élimine toutes les traditions extrêmement riches de l'islam qui permettaient justement le dialogue, l'intelligence, la subtilité, la mise à distance du texte. C'est la voie la plus littéraliste qui est en train de s'imposer pour des raisons là aussi de financement par le wahhabisme, par tous ceux qui ont intérêt à cela. On est pris en tenaille entre ça et ce mouvement que vous décrivez qui est le mouvement américain qui est celui de l'affirmation des minorités comme devant réguler la société. Et là où je pense que nous avons un problème, c'est que nous en restons en fait à des conceptions extrêmement abstraites. La laïcité est devenue quelque chose d'extrêmement abstrait dans la tête de la plupart des citoyens français. Ça n'est jamais redéfini, mais la République aussi. C'est-à-dire que quand on parle de camp républicain, de défense de la République, ça ne veut plus rien dire, tout le monde se dit républicain. Or, le fondement de la République, c'est l'idée de cet espace public neutre dans lequel nous sommes tous en tant que citoyens, nous intervenons en tant que citoyens et non pas en tant que représentants d'une communauté. Et ça implique que la laïcité, c'est la lutte contre tous les intérêts privés qui pourraient s'emparer de cet espace public. Pas seulement les religions, mais aussi les intérêts financiers, les lobbies. Et donc, l'idée qu'on pourrait accepter une régulation par le marché est une idée destructrice pour la République. Or, j'ai toujours été fascinée de voir des gens qui défendent la laïcité, mais qui défendent aussi l'idée qu'en économie, la régulation par le marché, le libre-échange généralisé, le retrait de toutes les barrières qui permettent de limiter les appétits, ça pourrait fonctionner ensemble. Je crois que ça, c'est une des dimensions du problème.
Caroline Forest.
Oui,
Est-ce qu'il y a une extension illimitée du champ de la laïcité, justement ?
Oui, alors après, on peut chacun peut avoir envie d'étendre aussi son d'y ramener tout ce qu'on a envie de dire, mais si on essaie de faire comprendre la laïcité, c'est déjà difficile.
Non, dit Natacha.
Non, mais je comprends ce que veut dire Natacha sur le fait que c'est un modèle philosophique. En tout cas, la laïcité, ça n'est pas une neutralité, ça c'est très important. De même que l'école publique n'est pas neutre. Elle est porteuse de sens, de valeurs, et donc dans ces valeurs, dans cette protection, dans le bouclier qu'elle représente, oui, il y a la protection d'un espace public qui est... qu'on essaie de pacifier, en réalité, de pacifier contre tous ceux qui veulent déchirer, s'imposer, s'immiscer. Après, on peut l'étendre jusqu'au lobby économique, on peut par extension philosophique le faire, mais c'est déjà très difficile de... Je suis d'accord, je suis pas contre cette idée, mais je dis juste que c'est tellement difficile déjà de faire la pédagogie concrète pour faire comprendre notamment la génération qui vient que ça n'est pas être contre la religion de quelqu'un que de lui demander d'avoir le respect de l'espace commun, de la liberté de l'autre, de la philosophie de l'autre, de faire l'effort de venir dans un espace pacifié pour essayer de savoir qui il est vraiment individuellement sans avoir la pression et l'assignation de l'origine ou de la religion de ses parents.
Campagne de com' du ministère de l'Éducation nationale est portée par Jean-Michel Blanquer. Est-ce qu'elle vous semble, en cette rentrée, est-ce qu'elle vous semble efficace, parler de la laïcité au quotidien avec des enfants qui sont ensemble à la piscine? Est-ce qu'on a une école de la République qui permette de vivre ensemble? C'est l'une des questions qui est posée par cette campagne de communication. Mais elle a été aussi beaucoup critiquée comme une forme d'illusion d'illusion irénique.
Moi, je crois surtout que plus qu'une campagne de communication, ce dont ont besoin aujourd'hui les enseignants pour faire comprendre à leurs élèves, parce que c'est par là que ça passe, cette transmission, ce qu'est la laïcité, c'est que les enseignants ont besoin d'être sécurisés dans le fait qu'ils sont soutenus. Soutenus par leur hiérarchie, soutenus par leurs collègues, soutenus par évidemment le ministère, soutenus par tout le monde, soutenus par la population dans la dure mission qu'ils ont d'essayer d'expliquer cette complexité philosophique à des élèves qui sont pleins de bonne volonté. C'est une génération très ouverte d'esprit, très vive, très curieuse. Mais c'est une génération qui est un peu aphilosophique, qui est très guidée par le tribalisme numérique, par la peur de penser, par la peur d'être annulée aussi ou d'être critiquée par des meutes sur les réseaux sociaux.
Oui. Et donc, vous connaissez bien le sujet.
Mais tout le monde connaît le sujet, tout le monde l'a expérimenté. Mais c'est pas la même chose de l'expérimenter à partir de l'âge de 20 ans que de naître avec cette terreur et cette intimidation. Donc si on a des enseignants qui sont eux-mêmes terrorisés, et évidemment que le meurtre abominable de Samuel Paty fait partie de cette intimidation terrible, comment vont-ils apprendre à leurs élèves à avoir le courage de penser ? C'est cette chaîne-là, moi, qui m'importe. C'est de faire en sorte que notre discussion puisse créer un consensus qui serve de protection aux enseignants pour qu'ils aient le courage d'apprendre le courage à leurs élèves.
Alors justement, puisqu'on est à Arras en public, et je remercie les nombreuses personnes qui nous ont rejoints dans le grand beffroi, puisque nous avons la chance d'avoir des enseignants, est-ce que un micro qui circule dans la salle... Bonjour monsieur.
Oui, bonjour à tous.
Et merci de participer au grand face-à-face.
Merci à vous. Donc Nicolas Penin, moi je suis conseiller principal d'éducation. Donc les mots que vous venez de prononcer, notamment sur la campagne laïcité de Jean-Michel Blanquer, m'intéressent à double titre parce que je suis aussi responsable syndical à l'UNSA dans l'éducation. Et donc on en entend parler, alors pas uniquement de la campagne laïcité de rentrée, mais aussi de laïcité au quotidien depuis Samuel Paty, dont vous avez effectivement... aborder le drame d'il y a quelques années, et puis vous dire et rappeler peut-être qu'effectivement on a eu ni formation avant, ni formation pendant, ni formation toujours, j'ai envie de dire, sur la laïcité et sur ce thème, que ça soit pour les enseignants ou pour les personnels, et que c'est malheureusement parfois un hochet qu'on le ressort lorsqu'un drame se déroule, mais qu'il a peu d'effet. Par rapport à ce que vous avez pu dire, moi ça m'inspire quelques réflexions. La première, c'est de m'interroger sur la montée des identités, ou le communautarisme, ou les communautés, ou l'esprit de communauté, et l'avenir de la laïcité face à ces communautés, finalement. Est-ce qu'on a le droit d'être optimiste ou pessimiste? Dans ce que vous avez pu dire aussi, et par rapport à la campagne, alors, encore une fois, que nous avons trouvé atterrante, hein, les collègues, enfin, je veux dire, dans les établissements scolaires, aujourd'hui, on décroche ces affiches.
La campagne laïcité la campagne de rentrée laïcité, du ministère de l'Éducation nationale.
La campagne de communication ministérielle, les affiches sont décrochées. Mais quand même, elle interroge, c'est-à-dire sur l'avenir de la laïcité, pas uniquement dans un rapport en direction de croyants ou non-croyants, mais du droit à la différence. Et je crois qu'effectivement, lorsqu'on s'interroge sur la possibilité d'être différent des autres, quelle serait la place de la laïcité lorsqu'on souhaite l'intégrer dans ce droit à la différence?
Et on est justement au cœur du sujet, Caroline Fourest.
Je vais juste finir juste là-dessus pour vous dire que dans ce rapport, et là j'interroge vraiment sur ce point précis, est-ce que c'est pas non plus la façon de voir une nouvelle séparation de la sphère privée et publique? Est-ce que la laïcité, c'est pas une nouvelle manière de vouloir scinder ou de réifier la sphère publique et la sphère privée?
Caroline Fourest.
D'abord, le droit à la différence, il faut manier ce concept avec précaution, parce que ça renvoie à toute une philosophie antiraciste qui consiste justement plutôt à flatter la politique identitaire. Chacun doit revendiquer son identité, être respecté au nom de son identité, et parfois même pouvoir négocier une forme de traitement particulier. À l'opposé, la tradition universaliste revendique le droit à l'indifférence, c'est-à-dire que il précise, ça n'est pas du tout une négation des discriminations ni des obstacles à l'égalité, mais c'est une tradition qui préfère pointer les obstacles et les discriminations sans assigner les êtres à leurs identités, en les laissant libres de s'auto-énoncer, de s'auto-proclamer, et donc d'avoir droit à ce droit à l'indifférence, c'est-à-dire à le droit d'être qui ils veulent être, comment ils ont envie de se présenter, sans être systématiquement ramenés à cette différence. Et là aussi, vous voyez, cette nuance qui est purement philosophique, elle change nos imaginaires. Et rien que ça, rien qu'arriver à expliquer ça à des élèves qui ont une conception très première des identités, et notamment des identités religieuses, malheureusement, en ce moment. Cette éducation philosophique, c'est ça la beauté, à mon avis, de l'école et de l'enseignement. Et bien sûr que elle est de plus en plus difficile, cette transmission, d'abord parce qu'il y a une contestation de la verticalité, qu'il y a une contestation de l'autorité qui est générale, elle est mondiale, elle n'est pas qu'en France. Quand j'entends aussi des candidats à l'élection présidentielle nous faire croire qu'ils ont des constats qui ne valent que pour la France, alors qu'ils décrivent des mécaniques et des phénomènes qu'on voit partout dans le monde. Pour lutter contre ce refus de la transmission, bien sûr qu'il faut être beaucoup mieux formé encore qu'avant. Mais c'est quasiment c'est une formation de boxeur qu'il faut pour les enseignants aujourd'hui, pour arriver à être assez agile pour répondre à ça. Je suis d'accord avec vous sur les campagnes de communication, je comprends qu'elles vous agacent, qu'elles agacent les professeurs. Il y a une chose, moi, qui est en train de se mettre en place, qui me rassure un peu.
Oui.
C'est, parce que ça, c'est des choses dont on parle jamais. Vous savez, on a eu un débat dans un tout petit milieu sur l'Observatoire de la laïcité, qui pendant des années était absolument inutile, qui aurait dû servir justement à identifier qui attaque la laïcité, notamment à l'école, et comment faire pour résister. Cet observatoire a été impuissant, inutile pendant des années. Il vient enfin d'être changé pour une administration de la laïcité, dont la mission première, avec des moyens, est d'organiser ces formations. Et bien sûr qu'elles sont nécessaires.
Un mot, Natacha, avant de redonner la parole à la salle.
Un mot rapide. J'ajouterais qu'en plus du droit à l'indifférence, il y a une dimension absolument essentielle qui est au fondement de l'émancipation. C'est le droit à être différent de sa différence. C'est-à-dire à ne pas être réduit à cette différence et à s'en émanciper, à changer, à sortir de sa communauté, à ne pas être déterminé par sa naissance et son origine. Et je pense que c'est une chose qui a été oubliée pendant un petit peu trop longtemps, et je rappellerai un point qui me semble essentiel quand on parle de l'école et de la façon dont l'école peut traiter cette question-là. Le rôle de l'école est d'émanciper les individus, pas de former des gentils citoyens qui diront amen à la laïcité à travers un catéchisme. C'est surtout pas ça. C'est d'émanciper par des savoirs, de fabriquer des hommes libres. Et ça, ça a été oublié aussi. Je rappelle que la loi d'orientation sur l'école de 1989 a servi de base au Conseil d'État pour accepter le voile à l'école. Le Conseil d'État s'était appuyé sur l'article 10 de cette loi qui proclamait la liberté d'expression des élèves. C'est-à-dire qu'on partait du principe que des enfants, des mineurs, avaient une liberté d'expression qui prévalait sur le rôle de l'école qui était de les amener, non pas à exercer leur liberté, mais à construire leur liberté pour plus tard. Je pense que ça a eu un rôle très important, c'est pour ça que les débats sur l'école et la pédagogie sont au cœur de la réflexion qu'on doit avoir sur la laïcité, la République, notre capacité à maintenir une possibilité de vivre ensemble de façon apaisée.
Encore une question sur le sujet avant le journal de 13h et sur cette question de la campagne ministérielle, je crois, qui a fait réagir beaucoup de professeurs. Bonjour monsieur.
Bonjour, je suis Jean-François Caramel, je suis professeur d'histoire de géographie et j'enseigne l'EMC, donc on est au cœur du sujet. Je vous écoutais à l'instant, Madame Polony, et effectivement, l'objectif, ça doit être, selon nous, à travers la laïcité, de construire des hommes et des femmes libres. Or, qu'est-ce qu'on nous donne avec la campagne qui est diffusée dans l'établissement actuellement ? On nous donne une campagne en papier glacé, on nous donne un modèle de laïcité qui est réduit quand même à sa plus simple expression, et où on fait des promesses d'égalité sans que nous, sur le terrain, on nous donne les moyens de travailler la laïcité, c'est-à-dire de créer les conditions d'appropriation de la laïcité par des moyens. Vous parliez tout à l'heure de l'argent qui coule à faux, monsieur Finkelstein, et des choix budgétaires. Nous constatons que l'éducation nationale et le second degré, les collèges et lycées où on travaille en particulier la laïcité, sont encore victimes de suppressions de postes. On va approcher les 8000 suppressions de postes dans l'éducation nationale sur 5 ans. Dans ces conditions-là, ça devient extrêmement compliqué de travailler la laïcité.
Il nous reste très peu de temps, Natacha, puisque vous étiez interpellée, puis Caroline.
Un point, je suis d'accord avec vous sur le fait que parler d'égalité sans définir réellement ce qu'elle doit être, ce que doit être la promesse républicaine, ne sert à rien. C'est pour ça que je suis assez réticente sur cette campagne qui est gentille, mais guère plus. Et que je pense que, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur la définition que l'on donne à la République. La République, c'est une promesse d'émancipation, de méritocratie, une promesse d'égalité des chances. Et ça va avec le message sur la laïcité.
Caroline Fourest.
C'est peut-être pas très politique, enfin je sais pas, c'est peut-être pas très poli de le dire comme ça, mais moi j'ai du mal à toujours réduire ces sujets à une question de moyens, même si évidemment que je souhaite le plus possible des moyens pour les enseignants. Il y a eu un dédoublement des classes annoncé, c'est déjà un pas intéressant. Il y a eu des référents laïcité qui ont été imaginés pas par ce gouvernement, par le précédent président. Bien sûr qu'il faut toujours plus, mais on va pas se leurrer. Hein. Cette bataille-là, il va falloir surtout des esprits vifs, des esprits agiles et des esprits solidaires. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est dans les salles de classe aujourd'hui, quand des enseignants ont un peu de culot, ont un peu de cran, quand ce sont des hussards à l'apathie, et ils se sentent isolés. Et parfois, ils sont isolés aussi parce que certains de leurs collègues leur font remarquer qu'ils les mettent en danger, qu'ils vont trop loin, que c'est pas bien. Et ne serait-ce que si on arrivait à changer cette atmosphère dans les salles de professeurs, je pense que le bouclier tiendrait mieux.
En tout cas, c'est évidemment une question qu'on va reprendre dans quelques minutes puisque le grand face-à-face est sur France Inter jusqu'à 14h, version XXL depuis Arras. L'émission continue après le journal avec Caroline Fourest. À tout de suite.
Le grand face-à-face, émission spéciale en public à Arras. Alibadou.
Le grand face-à-face version XXL en public et j'applaudis chaleureusement ceux qui sont venus assister, participer et c'est important à ce dialogue sur l'un des grands thèmes qui traverse notre société, le thème de la laïcité à Arras dans la salle des fêtes du Beffroi avec mes camarades Natacha Polony et Gilles Finkelstein et notre invitée Caroline Fourest. C'était passionnant de voir ces échanges avec des enseignants et c'est vrai que la laïcité, elle est d'abord peut-être apparue comme un problème à l'école. Vous rappeliez 1989, l'affaire de Creil, les voiles que portaient certaines collégiennes. Mais à vous écouter, à vous lire, Caroline Fourest, on a le sentiment que la laïcité, ça va bien au-delà. Et qu'en l'occurrence, ça interroge nos identités, mais toutes nos identités, même nos identités, on dirait aujourd'hui, de genre. Quel rapport entre la laïcité et le féminisme, par exemple, dont vous êtes l'une des militantes?
Mais parce qu'il y a un immense rapport, c'est que la laïcité est évidemment un protecteur, une protectrice de l'égalité. D'ailleurs, la laïcité est née d'une histoire qu'on ne rappelle pas assez, après l'affaire Dreyfus, pour protéger la République des ligues racistes, catholiques, intégristes et racistes, qui menaçaient la République et qui menaçaient de s'en prendre à certains citoyens sur la base de leur religion. Et la laïcité est aussi évidemment celle qui tient à distance les fondamentalistes religieux, quelle que soit leur religion, qui veulent absolument opprimer ou couvrir les femmes. Mais l'histoire est plus profonde que ça. Quand vous dites cette laïcité, elle pose problème, elle pose question, c'est pas la laïcité qui pose problème et qui pose question, c'est ceux qui l'attaquent qui posent problème et qui posent question. Millerand, qui était un ministre de la Troisième République, disait « La République n'est un régime ni oppressif ni intolérant, mais elle ne saurait tolérer ceux qui, sous prétexte de religion, mènent campagne contre elle. » Or, des gens qui mènent campagne contre la République, parce que c'est ça le fond du sujet, des anti-républicains, ça existe. Des gens qui ne sont pas d'accord avec ce système politique, ça existe. Et eux, ils pensent, et encore une fois, il y a quelques années, et aujourd'hui encore, mais de façon plus minoritaire, ça existe chez des catholiques et ça existe chez des musulmans, des gens qui pensent que la loi religieuse est supérieure à la loi des hommes. Et qui font toutes sortes de provocations, qui essaient de gratter, si ce n'est la République dans son ensemble, au moins des territoires. Et c'est ça qui pose problème, et c'est ça qui pose question. Et ça a un lien avec le féminisme, parce que la remontée des nouveaux fondamentalismes, notamment qui s'exprime de façon très politique à la fin des années 80, c'est valable avec la droite religieuse américaine, c'est valable avec évidemment la fatwa de Khomeini contre Rushdie et ce qui se passe dans le monde musulman, c'est valable aussi chez les ultra-orthodoxes juifs, a un lien profond avec l'avancée du féminisme. Ça, je suis convaincue de ça et je travaille depuis 20 ans sur ces questions, sur le fait que c'est aussi parce que la révolution avance en matière d'égalité, que le rôle des hommes et des femmes, ces rôles sont renégociés,
ouais,
que des hommes sont en train d'être terrorisés par cette révolution féministe. Et au lieu de dire, écoutez, moi je préférais quand même le temps où tout ça était bien défini, où j'avais ma place et elle était légèrement supérieure à la vôtre, madame, ce qui évidemment les ferait passer pour d'immenses machistes et les découvrirait immédiatement, ils préfèrent dire, vous savez, soudainement je crois que je suis à nouveau très touchée par la foi. Et je redeviens très religieux. Il se trouve que ma religion vous demande, madame, de rester à votre place. Et ça, je l'ai observé chez les premiers skippers américains qui disent clairement comme ça, madame, reprenez votre place, comme chez des fondamentalistes musulmans. Donc, la solution, c'est bien la laïcité et c'est bien le féminisme. C'est pas plus de patriarcat viriliste au nom du christianisme.
Alors justement, ce lien entre laïcité et féminisme, on va prendre une question de la salle et d'une jeune femme qui est installée avec nous ici à Arras. Bonjour.
Bonjour, Adèle Petit, j'ai 17 ans et je suis lycéenne. Donc j'avais quelques questions. Je me demandais, ne pensez-vous pas que c'est une atteinte à la liberté que d'interdire les signes distinctifs religieux à l'école? Et je me demandais également, est-ce que aujourd'hui la laïcité vous semble menacée? Est-ce que vous pensez que c'est un sujet tabou de ne pas parler de laïcité à l'école? Parce que vous dites que les enfants choisissent leur religion en fonction des parents, mais parfois ils peuvent se reconvertir et donc c'est un choix personnel aussi.
Bien sûr.
Caroline Fourest.
D'abord, est-ce que c'est tabou? En tout cas, c'est bien très dangereux. Encore une fois, on l'a vu avec Samuel Paty, mais c'est qu'un exemple le plus terrible. C'est très dangereux d'aborder certains sujets en classe aujourd'hui. Et après, c'est très intéressant dans votre question, parce que ça, je crois que c'est vraiment une discussion qu'on doit avoir avec des gens de votre âge, de poser la question de la liberté de cette façon-là. C'est-à-dire que, d'un côté, il n'est plus possible, en tant que féministe, d'interroger le fait de couvrir le corps des femmes, le fait qu'il y ait des mouvements fondamentalistes qui aient politisé le fait de couvrir le corps des femmes, parce qu'ils jugent que le corps des femmes est provocateur plus que le corps des hommes, ça n'est pas vécu comme une atteinte à la liberté par plein de jeunes. Or, c'est un mouvement profondément inégalitaire et liberticide qui est amené à cette nouvelle mode du voile, qui est tout à fait nouvelle, hein. En France, c'est pas un voile traditionnel, on parle d'un nouveau voile politique qui est issu de cette pression sur la liberté des femmes. Et c'est intéressant que, souvent, dans cette génération, on ne commence à voir l'histoire qu'au moment où la République réagit. Et où elle dit, moi je préfère quand même que les jeunes continuent d'aller à l'école publique, laïque, qui a été faite pour penser justement à protéger les jeunes citoyens de ces pressions-là. Je préfère qu'ils aient jusqu'à leurs 18 ans et jusqu'à l'âge adulte pour décider en conscience si c'est un choix qui leur va. Le fait de vouloir protéger ce temps de réflexion, de conscience, des pressions extérieures, la pression du quartier, la pression des frères éventuellement, la pression des autres, du regard des autres, que ce soit vécu comme une atteinte à la liberté, c'est bien la preuve que là, il y a besoin d'une immense transmission philosophique. Je vais vous dire une chose, mademoiselle, je pense qu'aujourd'hui, le plus grand danger, c'est que les ennemis de la liberté ont réussi à faire croire à toute une partie de la jeunesse qu'ils étaient de grands rebelles en lutte contre l'autoritarisme. Non, les liberticides ne sont pas dans ceux qui cherchent à protéger l'école publique laïque et gratuite des pressions traditionnalistes, fondamentalistes et antiféministes.
Adèle, vous avez été convaincue par Caroline Forest ?
Oui, mais après, on parle du regard des autres, mais c'est peut-être plutôt les mentalités qui devraient changer, donc des jeunes à cet âge-là.
Mais vous, en tout cas, vous voyez, par exemple, la volonté de porter le voile comme un signe de liberté ou d'oppression ?
Plutôt d'oppression pour le voile, mais après je parle pas forcément du voile, mais juste d'une croix ou d'autres signes religieux. Après c'est vrai que ça dépend d'un choix individuel, mais c'est vrai que le voile c'est quand
mais,
même...
Mais typiquement vous voyez, une fois qu'on a 18 ans, d'abord on a le choix d'aller à l'école privée, si on pense que son choix religieux l'emporte sur la nécessité de s'éduquer dans un espace laïque. Et puis ensuite, une fois qu'on a 18 ans, et moi je me suis élevée contre ceux qui voulait interdire le voile dans la rue au nom de la laïcité, parce qu'après je pense qu'une fois qu'on est adulte et qu'on ne va plus à l'école laïque et gratuite, on a bien le choix de faire un choix traditionnaliste. Ce qui m'ennuie plus, c'est quand on arrive à faire passer ce choix pour un choix progressiste. C'est pas très progressiste de penser que le corps des femmes doit être plus caché que celui des hommes. Ou alors moi j'y croirais quand les hommes porteront le voile. Et jusqu'à présent, les talibans n'ont pas fait cette proposition, par exemple.
Pas encore. Natacha Polony.
J'ajouterai un point. Je faisais tout à l'heure la distinction entre lieu d'apprentissage des libertés et lieu d'exercice de la liberté. L'idée qu'il existe une frontière d'âge entre mineurs et majeurs est fondamental en fait dans la constitution de la République. Pourquoi ? Parce que c'est l'idée que nous sommes citoyens, qu'un citoyen est un individu autonome et responsable, doué de libre arbitre. Et tout le principe de distinction entre minorité et majorité, c'est le fait qu'il y a un moment où on est en apprentissage, où on n'est pas encore responsable, au sens où non seulement on ne subvient pas à ses besoins, mais parfois, on ne peut pas non plus, on n'a pas forcément les moyens d'envisager toutes les conséquences de ses propres actes, d'où le fait que même il existe une majorité en matière judiciaire aussi, en matière sexuelle, et une minorité. Et donc, tout cela pour dire que l'école s'adresse à des mineurs. Et le rôle de la puissance publique est de leur donner une éducation à travers des savoirs universels, c'est-à-dire justement pas un endoctrinement, mais des éléments qui vont permettre à ces enfants de petit à petit devenir autonomes et responsables. Et une fois qu'ils sont adultes, on considère que là, ils sont doués de libre arbitre et que donc ils peuvent choisir pour eux-mêmes, d'où la différence qui existe entre l'école et par exemple l'université. Le problème du voile à l'université ne se pose pas de la même manière. Et Dieu sait que ça ne me plaît pas de voir certains amphithéâtres avec des jeunes femmes voilées, justement parce que c'est un signe d'oppression de la femme. Mais pour autant, en termes juridiques, ça ne se pose pas de la même manière parce qu'on a affaire à des gens majeurs.
Gilles Finkelstein.
Oui, vous demandiez si la laïcité était un sujet tabou. La laïcité est dans les programmes scolaires, donc elle est étudiée à l'école, mais nous avons réalisé, la Fondation Jean Jaurès, il y a quelques mois, une étude auprès des enseignants. On a vu à quel point c'était un sujet qui était difficile à aborder par les enseignants eux-mêmes. Et peut-être précisément pour la question que vous avez posée, parce que ça renvoie aussi à ce mot de liberté qui a une résonance particulièrement forte dans la jeune génération, peut-être plus forte encore que dans les générations précédentes, mais qu'il y a parfois des confusions autour de ce mot de liberté. Et c'était très significatif. Vous disiez à la fois la question de la liberté du port des signes religieux et la liberté de choisir sa religion. Or,
l'articulation entre les deux ne se fait pas toujours si facilement parce qu'il y a des conceptions absolutistes de la religion qui vont jusqu'à considérer qu'il est impensable, inacceptable d'avoir la possibilité de changer de religion.
Question dans la salle, ici dans le grand beffroi d'Arras. Bonjour et merci de participer avec nous à ce dialogue.
Oui, bonjour, je m'appelle Stéphane Duval. Je dirige des structures de stabilisation pour des mineurs non accompagnés, donc des jeunes qui ont fait le choix de s'installer en France et de se construire un avenir. D'ailleurs, je suis accompagné par deux jeunes, Assim et Machoula. Moi, quand j'ai su que j'allais participer à ce débat, enfin, j'allais assister plutôt, je me suis dit, tiens, je vais regarder le débat.
Vous parlez du débat entre Jean-Luc Mélenchon et Éric Zemmour sur BFM.
C'est celui-ci, oui, le débat. Donc, là, aujourd'hui, je me suis dit, mince, la question de la laïcité aurait pu être abordée, ça aurait dû être abordée. Or, on a entendu des mots d'une extrême violence, on a entendu parler d'émigration, de rémigration, enfin, je ne savais pas que ça existait, ce mot. On a parlé d'assimilation, enfin bref, c'était vraiment très très violent. Et ce que je crains finalement, c'est que quand on écoute ces deux débats, celui que l'on a aujourd'hui et celui d'hier, quel est celui qui va laisser le plus de traces à ceux qui l'écoutent ? Est-ce que finalement la question de la laïcité, c'est pas quelque chose que l'on débat de trop, c'est-à-dire est-ce que c'est pas un concept ?
Vous trouvez qu'on en parle trop ?
Comment ?
On parle trop de laïcité, en l'occurrence.
Je ne trouve pas qu'on en parle trop. Je trouve qu'il faudrait peut-être la simplifier un petit peu, la laïcité. Je pense que pour certaines personnes, c'est peut-être un concept un peu trop difficile, un peu trop abstrait, j'allais presque dire. Alors que les mots utilisés hier soir, pour certains, c'est du concret, ça.
Avant-hier soir.
Oui, mais si.
Avant-hier soir.
Caroline Forest.
Le problème, si vous voulez, c'est que s'il faut être outrancier et aussi simplificateur que peuvent l'être les hommes politiques en campagne, pour parler de certaines choses, je crains que, pour le coup, le climat ne s'améliore pas. Il va falloir accepter qu'il y ait des espaces qui sont des espaces de la boxe politique où chacun peut aller jusqu'à la simplification extrême dans le but de gagner des voix et de se faire comprendre et de marquer les esprits. Et oui, monsieur, ça c'est la loi du genre, vous avez raison, c'est triste, mais c'est ainsi. Les propos les plus simplistes et les plus simplifiés auront toujours plus d'impact. Et même, je vais vous dire autre chose, sur les réseaux sociaux, ça a été étudié, le mensonge voyage 6 fois plus que la moindre rectification et que la moindre vérité. Notre travail à nous, quand nous ne sommes pas justement dans ces simplifications-là, c'est d'essayer de se battre pour être entendu quand même dans un registre plus apaisé, plus complexe, qui permette à des gens de faire un pas de côté, de s'armer intellectuellement, de s'armer contre l'erreur, qui est une vieille tradition de Condorcet, pour faire en sorte que quand ils voient un débat aussi réduit ou appauvri par le vocabulaire de certains, en l'occurrence hier soir surtout par le vocabulaire d'Éric Zemmour, eh bien ils puissent juger autrement, juger de la pauvreté de la proposition qu'il aurait faite. Mais ça, c'est la mission des intellectuels, des journalistes, des médias, des écoles, des universités. Et c'est bien pour ça que l'on continue à écrire des livres et qu'on continue à avoir ce genre de rencontres.
Natacha Polony.
Monsieur voulait...
Bon,
oui, monsieur.
Quand j'ai proposé à Assim et Machoula de venir, il a fallu que je leur explique le concept de laïcité. Parce que c'est quand même quelque chose qui est vraiment... propre.
Mais c'est ça qui est beau. Alors, vous voyez, vous participez à cette transmission et c'est ça qui est beau. Ils ne sont pas, s'ils viennent d'arriver comme mineurs non accompagnés et qu'ils ne sont pas passés par l'école laïque, et c'est normal que des personnes qui les accompagnent comme vous soient dans cette transmission et qu'ils ne l'aient pas appris après. Je crois qu'Assim vient du Pakistan,
vient du Pakistan. Alors, ils sont aujourd'hui plus mineurs, ils sont adultes. Puisqu'ils
exactement,
ont,
voilà, mais ils sont arrivés mineurs.
18 ans et 19 ans et demi. Ils ont des parcours scolaires tout à fait exceptionnels, on va dire ça comme ça. Quand j'ai dit à Assim hier, on va, si ça t'intéresse, participer à un débat, il m'a dit, oh là là, il faut que je révise. Donc, il est allé voir hier soir sur Internet ce que c'était que la laïcité. Et quand je l'ai vu tout à l'heure, j'ai dit, alors, t'as révisé ? Oui, oui, on sépare l'Église et l'État. Voilà.
Mais est-ce que je peux dire un mot de plus à Assim ?
Et j'aimerais qu'Assim prenne la parole, justement, pour qu'il nous dise ce que lui a retenu à la fois de ses révisions et de cette vision française de la laïcité quand on vient d'un pays où c'est à des années-lumière de la tradition sociale.
Bonjour à tous.
Bonjour, Assim.
J'ai pas de question à vous, mais je vais expliquer seulement le truc laïcité. Moi, je viens d'un pays qui, on était forcé, on était obligé d'aller à la mosquée, on pratiquait notre religion. Mais quand je suis arrivé en France, j'ai regardé tout le monde, ils sont libres. Mais moi, j'étais choqué au début. Parce que
Pakistan, vous étiez choqué par ce qui se passait en France.
Voilà. Parce que moi, je viens d'arriver et jamais vu la culture comme ça. Les femmes, ils sont libres, les hommes, ils sont ensemble. Mais petit à petit. Mais moi, je suis musulman, mais j'ai une place pour aller à la mosquée pour pratiquer. Mais c'est bien, moi, j'aime bien votre culture pour chaque... On ne peut pas forcer à quelqu'un pour imposer que toi, tu vas choisir cette religion ou toi, tu vas choisir cette religion. Moi, mon but est là, c'est mon avis, qu'on va laisser notre religion, on va partir ensemble, on va travailler pour les jeunes qui sont en train de mourir, pour le manger, qui n'a pas de manger, on va vivre ensemble. Les religions, chacun, il va garder dans son cœur, et voilà, on va travailler pour les jeunes.
Mais je crois que vous avez très bien compris et très bien défini, voilà, avec des mots extrêmement simples, ce qu'est la laïcité. Et merci chaleureusement, Hassim, pour votre intervention et la rapidité avec laquelle vous avez compris ce qui pose problème à beaucoup à travers le monde, Gilles Finkelstein, puis Caroline Forest.
Oui, vous avez dit quelque chose de très important, c'est que vous venez d'un pays dans lequel il était obligatoire de pratiquer sa religion. La laïcité, c'est à la fois la séparation qu'on a évoquée, mais c'est aussi très fondamentalement la liberté de croire ou de ne pas croire. Et une des spécificités de notre pays n'est pas seulement la laïcité, c'est aussi que le pourcentage de gens, de Français, qui ne croient pas est beaucoup plus importante que dans la plupart des autres pays du monde. C'est une de nos spécificités qui fait aussi que dans le rapport à la religion, et dans, y compris dans la compréhension des autres pays et dans la compréhension des autres pays par rapport à nous, il y a cette difficulté. Je crois que vous avez extrêmement bien compris ce qu'était la laïcité.
Natacha Polony.
Je pense que vous êtes un exemple du travail absolument essentiel qui est celui de toutes les associations qui aujourd'hui accueillent sur le sol français des nouveaux venus. C'est aussi le travail de tous les professeurs qui ont dans leur classe des enfants venant de pays étrangers, nés dans des pays étrangers. Ce travail-là est fondamental. C'est un travail qu'on appelle tout simplement l'intégration. C'est-à-dire le fait que chacun porte son histoire, porte sa mémoire, ce qu'il est, ce qu'il a appris, la culture de son pays, mais qu'il va intégrer petit à petit le fonctionnement et les valeurs de la France parce qu'il a vocation à être français, à rester sur notre territoire et à faire partie de la communauté politique. Et toute la question de l'intégration, elle est essentielle. Pourquoi ? Parce qu'on a des débats depuis 20 ans sur l'immigration, sans jamais penser ce problème en lien avec, petit à petit, l'abandon de tous les processus d'intégration. L'intégration, ça se fait par différents éléments. Le travail, bien sûr, et c'est fondamental. Et en fait, la désindustrialisation, le chômage, ont cassé un des éléments essentiels de l'intégration des étrangers en France. Mais il y a aussi le travail de l'école et des associations. Mais pour cela, si vous disiez, monsieur, tout à fait justement, qu'on reste dans l'abstraction et que ce qui est important, c'est le concret, sauf que les conceptions que nous avons les uns et les autres de ce qu'est la République, de ce qu'est la laïcité, en fait, ça a des conséquences extrêmement concrètes. Un professeur ne va pas faire passer exactement les mêmes messages suivant la façon dont il conçoit sa mission. J'ai en tête, par exemple, les débats qu'on a régulièrement en France sur la question de savoir si un professeur d'histoire est là pour faire aimer la France ou pour enseigner l'esprit critique. Ce genre de débat, ça a des conséquences très très concrètes parce que par petites touches, on n'enseigne pas exactement de la même façon. Et c'est vrai aussi quand on transmet un message à des jeunes gens qui sont arrivés en France après un périple parfois terrifiant et à qui on va petit à petit expliquer ce qu'est ce pays et en effet à quel point c'est un pays qui a pour vocation, même si c'est jamais parfait, l'émancipation, la liberté.
Caroline Forest.
Ce que j'aime dans ce que vous avez dit, Hassim, je crois que là on est vraiment dans l'exemple de la transmission réussie et ça se passe tous les jours, ces transmissions réussies, grâce au travail que font effectivement les associations. Et pendant qu'on a des débats très violents et très brutaux sur l'immigration, la réimmigration ou l'assimilation, effectivement, nous n'avons pas de débat sur quels moyens nous nous donnons pour fortifier le travail de ces associations qui accompagnent des mineurs qui arrivent du Pakistan, qui accompagnent des réfugiés qui sont en ce moment arrivent d'Afghanistan et qui fuient les talibans. Ces gens-là existent, ils se battent et ce débat est faussé parce qu'en réalité, vous voyez, c'est pas ces premiers migrants, ces migrants de la première génération qui, comme Hassim, viennent d'arriver de pays où justement ils sont venus chercher la liberté en France. Et bien sûr qu'au début, ça fait un choc, Parce que quand on n'a pas été élevé dans la liberté, c'est un choc, la liberté. Mais justement, si on se donne les moyens, si on est accompagné, on peut goûter ce fruit absolument sublime et parfois défendu qu'est la liberté. Par contre, si on va avoir quelqu'un qui se serait adressé à Assim en disant « Ce qui compte, c'est que quand tu changes le prénom de tes enfants, sinon tu n'es pas un bon Français », je ne suis pas sûre, Assim, que vous ayez à ce moment-là senti et compris le fruit de la liberté que nous avons
oui,
en commun.
Mais j'ajoute qu'il y a aussi, il ne faut pas l'occulter, une part du discours qui est tenu parfois qui est « Vous arrivez, vous êtes étranger, mais... la France vous doit quelque chose et donc vous ne devez surtout pas changer votre culture et vous ne devez pas vous intégrer. »
Ça, c'est le relativisme
culturel.
Et
ça aussi, ça pose problème, ne serait-ce que d'ailleurs quand ça vient de puissances étrangères. Recep Erdogan, par exemple, est un des grands promoteurs de l'idée qu'il ne faut surtout pas s'intégrer quand on arrive en France.
Et à l'inverse, le défi que l'on a, qui est souvent plutôt des Français qui sont là depuis plusieurs générations, c'est la jeunesse à qui on explique, par exemple, que dans une société comme le Pakistan, au moins ils seraient respectés dans leur foi, en oubliant de leur dire que dans une société comme le Pakistan, les minorités religieuses sont en prison parce que dès qu'elles parlent de leur propre religion, elles peuvent être dénoncées au titre de la loi sur le blasphème. Donc cette transmission de cette complexité, c'est évidemment le défi qui doit nous rassembler.
Et il y a aussi des militants associatifs, des gens dont c'est l'action au quotidien d'être confronté à la question de la laïcité. Je pense notamment à l'association La Brique. Bonjour.
Oui, bonjour.
Bonjour. Alors, et bienvenue dans le grand face-à-face, ou plutôt merci de nous accueillir à Arras.
Alors, je vous en prie. Voilà, moi, je suis Amaury, donc professeur d'espagnol au Collège Michelet de Lens et aussi bénévole à La Brique, donc une association qui cherche à créer du lien entre les gens et notamment avec les personnes qui sont un peu isolées, les personnes à la rue, les exilés. Et en fait, pour nous, la laïcité n'est pas un problème. Au quotidien, on s'adapte puisqu'on est dans l'accueil. Et dès qu'on est dans l'accueil, eh bien, la laïcité va de soi. Et
donc, elle va de soi.
Elle va de soi, elle est très
et
simple.
Comprenez notre étonnement, parce que c'est vrai que la laïcité est un sujet qui divise tellement que.
Et pas pour les arrivants, c'est pour.
Elle est très simple à appliquer. Et en fait, moi, la question que je me pose, c'est si la laïcité est le vrai problème ou si ce n'est pas une question de fraternité. Est-ce que ce n'est pas un manque de fraternité? Un défaut de fraternité qui crée toutes ces tensions. Et on le voit aussi au collège. Hein. La laïcité, on l'explique très bien. On est capable de l'expliquer, nous, les professeurs. Et dès que ça crée des tensions, c'est que autour, déjà, il y avait une tension dans l'école. Il y avait un manque de confiance en l'école, un manque de confiance envers les professeurs. Et en fait, la laïcité n'est pas le problème, c'est le climat dans lequel le débat se fait.
Bah, c'est une très bonne question, puisque tout à l'heure je disais liberté, égalité, laïcité, et je vous citais Caroline Fourest, et la fraternité.
Bien sûr, mais la fraternité, ça peut pas être un objectif décrété en soi, c'est la fin du chemin. C'est une fois que vous avez sanctuarisé, protégé et permis les libertés et l'égalité, que la fraternité se noue, et c'est un choix qui ne tombe pas du ciel. Mais j'ai envie de dire, typiquement, les débats sur la laïcité, ou ceux qui contestent la laïcité aujourd'hui, ne sont pas les primo-arrivants, ne sont pas les réfugiés politiques. C'est normal que vous n'ayez pas ces questions-là dans vos associations au niveau de l'accueil. Ces questions se posent dans des salles de classe et dans les forums Internet, de la part, encore une fois, de jeunes Français, nés de parents français, à qui des profiteurs de malheur, des groupes intégristes, expliquent qu'ils sont persécutés comme musulmans en France à cause de la laïcité, et que donc ils doivent contester ce que leur disent les professeurs, ce que leur disent peut-être les lois. Et comme moi je travaille sur ces groupes, je suis toujours frappée par la naïveté des gens qui pensent, et du coup ça donne des explications civilisationnelles très essentialistes, on nous explique que c'est une guerre de civilisation, que c'est une question de religion. Non, moi je travaille sur des groupes, les frères musulmans, je travaille sur eux depuis plus de 20 ans, et je sais quelle est leur stratégie pour aller infiltrer des associations, des partis politiques, des salles de classe, des familles, et faire en sorte qu'ils chopent comme ça toute une partie de la jeunesse, ils la radicalisent, ils la montent contre la République. Et oui, ça finit par créer un problème, parce qu'au bout de 5, 6, 10, 20 situations de tension plus des attentats, eh ben en face, il y a des gens qui disent « Vous voyez, on a un problème avec l'islam ». Et plus il y a des gens en face qui disent « Vous voyez, on a un problème avec l'islam », plus ces groupes qui ont cette stratégie victimaire depuis le début engrangent, recrutent, et c'est bien l'objectif.
J.F. Finkelstein.
Dans le triptyque de la devise républicaine « Liberté, égalité, fraternité », la fraternité est arrivée après les autres et la fraternité est souvent le premier oublié. Or,
j'ai le sentiment que c'est une demande extrêmement forte de notre société qui voit à la fois les replis, la violence, et qui est aussi à la recherche de davantage de solidarité, de respect, de reconnaissance, tout ce que l'on peut englober autour de ce mot de fraternité. La question est de savoir comment cette demande, qui je crois est une demande de la société très forte, comment elle réussit à trouver une expression, une place dans le débat public, dans un débat public qui est tonitruant. La fraternité, ça peut apparaître comme un concept mou, et ce qui émerge dans le débat public, c'est ce qui est dur. Et donc comment ce qui est mou peut devenir dur, c'est s'agissant de la fraternité.
Ça, c'est une très très bonne question et qui est pleine de vocations. Natacha Polony, j'aimerais pas pourquoi entendre la réaction d'Amaury.
Gilles est mûr pour un zapping. Là.
J'ajouterais une chose, c'est que la fraternité dans la devise républicaine, ce n'est pas un synonyme de la solidarité, de l'entraide. C'est la fraternité dans le sens universel, c'est-à-dire le fait que nous sommes tous frères humains. Et c'est cela qu'il y a d'intéressant dans la devise républicaine, c'est qu'elle est souvent pensée de façon conflictuelle. Les uns disent il vaut mieux la liberté, d'autres disent non, l'égalité est plus importante. Les trois doivent être au même niveau, c'est-à-dire ça ne peut se penser qu'à travers un projet universaliste, d'où le danger que peuvent constituer les différents identitarismes que nous voyons aujourd'hui, non seulement l'identitarisme d'extrême droite, mais aussi celui qui vient des États-Unis, qu'on dit aujourd'hui woke, c'est-à-dire cette idée que nous sommes irréconciliables entre dominants et dominés, entre hommes et femmes, entre blancs et noirs, alors qu'en fait le principe, c'est justement que si nous pouvons former une communauté politique, c'est parce que par-delà nos différences, nous appartenons tous à la même humanité.
Et j'aimerais que Amaury nous explique comment se passent des choses absolument très concrètes lors de repas, pendant le ramadan, puisque ce sont des questions qui reviennent aussi régulièrement, la question de la laïcité. Elle ne concerne pas que les signes ostensibles de religion, elle va maintenant jusqu'au menu des cantines scolaires. Comment ça se passe à la brique, par exemple?
Eh bien, à la brique, on s'adapte, on essaye de s'adapter à chacun, et on demande aussi à chacun de s'adapter à nous, ce qu'on peut proposer. Donc, on fait des efforts de notre côté, et on attend des efforts aussi des personnes que l'on reçoit, et vraiment, personne ne nous impose quoi que ce soit.
Vous venez de prononcer un mot essentiel qui est le mot effort. C'est-à-dire que le fait de former une communauté humaine, une communauté politique, ça nécessite des efforts. Et en fait, nous sommes dans un moment où le rapport entre l'individuel et le collectif s'est peu à peu déséquilibré. Et que je crois que tout ce dont nous parlons depuis le début relève de cela. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment d'hypertrophie individualiste où chacun va se sentir d'abord facilement blessé par l'existence même des autres et va considérer qu'il n'a pas à faire d'efforts. Jean-Pierre Chevènement avait eu un mot qui avait été très mal interprété il y a quelques années. Il avait dit que la laïcité nécessitait la discrétion. Et je crois que c'est en fait cela. C'est-à-dire la discrétion, c'est-à-dire le fait de ne pas venir avec son identité et son moi en bandoulière pour l'imposer aux autres, mais de faire l'effort de s'adapter aux autres et de moins flatter son propre narcissisme. Et je crois que c'est quelque chose de beaucoup plus difficile aujourd'hui dans des sociétés régies par les réseaux sociaux, par l'image. Et nous sommes aussi confrontés à ce problème, à ce danger.
Caroline Forest.
Oui, c'est une des explications des crispations que l'on vit qui vont bien au-delà de la question du renouveau religieux. En fait, aussi la manifestation de ces revendications religieuses parfois un peu extrêmes, c'est aussi la manifestation de ce nouveau narcissisme, effectivement, qui est en train de s'imposer à nous. Nous sommes
Pourquoi
dans...
est-ce que vous parlez de narcissisme ?
Ah, nous sommes dans une société qui flatte le narcissisme à un degré mais jamais atteint. Nous nous réveillons en regardant ce que les autres pensent de nous, s'ils nous aiment, s'ils nous likent, s'ils ne nous likent pas. On se met en scène, on se met en photo. Nous sommes dans l'hypertrophie effectivement individualiste comme nous ne l'avons jamais été. Et de fait, le fait, on peut faire communauté sur les réseaux sociaux, mais ça ne demande aucun effort. Très peu d'efforts. Le fait de devoir aller effectivement vers une communauté politique, vers une communauté citoyenne, ça demande d'accepter sa part de devoir et sa part de droit. Et c'est là que la transmission est douloureuse, parce qu'elle est beaucoup plus transactionnelle que sur un forum internet.
France Inter, le grand face-à-face XXL à Arras.
Encore une question du public, toujours à Arras. Bonjour, monsieur.
Bonjour, donc Virgile. J'avais juste une petite question en termes d'éducation ou d'apprentissage. La laïcité, finalement, à la fois jeune et récente, on parle de les prémices vers 1601, quelque chose comme ça. Donc on est à la fois sur quelque chose qui a mis du temps aussi à émerger. Et aujourd'hui, bon, on le côtoie, nous tous, au quotidien, de manière relativement facile. Mais est-ce que on enseigne ça? Est-ce qu'on partage ce long chemin qu'on a tous parcouru pour en aboutir aujourd'hui à cette laïcité qui est effectivement partagée et qui nous semble là un bien commun qu'on essaye de léguer ou d'apprendre à d'autres, premièrement? Et deuxièmement, comment enseigner finalement l'impact de la colonisation? Comment faire en sorte que finalement ce sujet qui peut être aussi crispant auprès d'anciennes générations et qui ressort du chapeau d'un seul coup, comment faire pour justement partager cette triste période et faire en sorte qu'elle soit aussi un sujet d'apprentissage de la laïcité?
Caroline Forest.
J'ai le sentiment, mais c'est mon expérience personnelle en tant qu'ancienne élève, j'ai le sentiment honnêtement qu'on passe beaucoup plus de temps à enseigner l'histoire de la colonisation que l'histoire de la laïcité. Et on doit pouvoir enseigner les deux, mais va peut-être falloir rééquilibrer un petit peu. Parce que justement, la tendance actuelle, puisqu'elle est identitaire et puisqu'elle est victimaire, c'est de ne vouloir examiner dans l'histoire que les oppressions. Et alors, j'ai connu l'époque où on n'enseignait aucune oppression, à part la colonisation, je veux dire. Moi, j'ai entendu parler que de colonisation dans mes cours d'histoire quand j'étais au lycée. Par contre, les autres formes d'oppression, l'histoire du sexisme, l'histoire de l'homophobie, n'y étaient pas. Mais les cours d'histoire ne doivent pas être des manuels communautaires qui revisitent l'histoire pour expliquer qu'il y a eu des bons et des méchants de façon aussi simpliste. Il va bien falloir retrouver le sens de la dialectique historique, du contexte. Je crois que cet enseignement de l'esprit critique par la contextualisation, mais c'est la mission première, fondamentale, essentielle de l'école et de l'université dans un monde totalement horizontalisé par les nouveaux moyens de s'informer, où justement le contexte a été totalement balayé. Donc sincèrement, oui à l'enseignement de la colonisation, mais ça c'est vraiment déjà fait, pas sur un mode, encore une fois, victimaire, sur le mode de la complexité. Parce que la colonisation, elle a existé dans toutes les civilisations quasiment. Il faut pas le vivre que comme une repentance. La colonisation ottomane, c'est quand même une des plus longues réalités de l'histoire. Donc apprendre cette complexité à des élèves, c'est aussi pouvoir se réconcilier avec la multiplicité de leurs identités, le lieu où ils vivent, qui n'est pas qu'un lieu d'oppression, même dans le passé ni dans le présent, et qui est aussi un lieu d'émancipation.
Gilles.
Oui, juste d'un mot sur l'impact de la colonisation qui occupe des années, des décennies après, et on va le voir encore dans quelques mois avec l'anniversaire des accords d'Évian et de l'indépendance de l'Algérie. Sur l'impact de la colonisation, la transmission, ce qui doit se transmettre, c'est la réalité de l'histoire, et en regardant cette histoire de face, avec lucidité. Ce qui ne se transmet pas, ce qui ne peut pas se transmettre, c'est le statut de victime. C'est pas parce que son père, son grand-père était victime que l'on est soi-même une victime. Donc transmission de l'histoire, pas transmission du statut de victime.
Natacha.
Je me souviens d'avoir été frappée dans un documentaire sur les menaces contre Charlie Hebdo, avant l'attentat de 2015, par Cabu, riant du fait qu'on l'accusait de ne cibler que les musulmans, et on lui expliquait que c'était affreux, Charlie Hebdo s'en prenait aux musulmans. Ce qui était une méconnaissance absolument effarante de l'histoire même de Charlie Hebdo. Et il suffisait de se replonger un tout petit peu dans cette histoire pour comprendre que les catholiques en avaient pris bien plus, et avec une ferveur absolument délicieuse. Ça nous raconte quoi ? Que l'histoire, en fait, est absolument essentielle. Et que si on expliquait, notamment aux jeunes musulmans en France, la violence de la séparation des églises et de l'État, la façon dont il a fallu en effet cogner sur l'Église catholique pour se débarrasser de son pouvoir, et avant cela, le fait que si la France a petit à petit mis en œuvre ce principe de laïcité, c'est parce qu'elle a vécu des guerres de religion d'une monstruosité terrible. Nous savons ce que c'est que de s'entretuer pour une idée de Dieu. Et avant cela, la croisade contre les albigeois, c'est-à-dire l'écrasement d'une civilisation pour un vague prétexte religieux. C'est en cela que l'histoire doit être racontée non pas comme un roman national, mais comme un récit complexe, dialectique, mais qui permet, en effet, de comprendre tout simplement que nous sommes le produit de tout cela et que les valeurs, les modes de vie qui sont les nôtres ont leur sens à travers ça. Ça doit être transmis en particulier à ceux dont la famille ne pourra jamais le leur transmettre, ceux qui viennent d'ailleurs, puisqu'ils sont français, puisqu'ils sont les héritiers par leur nationalité française de cette histoire, il faut absolument la leur transmettre.
Mais alors que faire des épreuves subjectives de ce que Pierre Rosanvallon appelle les épreuves de vie, à savoir le fait de se sentir discriminé, de se sentir méprisé, de se sentir rejeté dans une société où les principes sont beaux, liberté, égalité, fraternité, mais où ils sont souvent mal appliqués. Pour le dire très poliment, que répondre à quelqu'un qui se vit l'héritier d'une histoire douloureuse et qui demande non pas réparation, mais au moins reconnaissance, Caroline Forest?
Mais comme l'a dit Gilles à l'instant, le statut de victime ne se transmet pas de génération en génération. À un moment donné, il faut arrêter. Il faut avoir le courage de commencer à assumer sa vie et de la vivre telle qu'elle est. Bien sûr qu'il y a des imperfections et que l'objectif de liberté, d'égalité, de fraternité, c'est un horizon. Ça n'est pas quelque chose qui vous est donné avec la petite cuillère à la naissance. Il faut se battre pour que cet horizon soit vivant. Mais ça demande l'effort de tous et de chacun. Ça demande effectivement que lorsqu'on est victime d'une discrimination qui est une atteinte à cette promesse républicaine, on puisse le dire, on puisse le dénoncer, qu'on soit écouté, que justice soit faite, bien sûr. Mais cet état de victime n'est pas un statut de victime perpétuel. Et c'est en raison de ce qu'on a vécu soi-même, et non pas nos parents, et non pas notre identité de naissance, que l'on peut se dire victime. Or aujourd'hui, la tentation, c'est de faire d'un état de victime un statut. Et ça, du coup, ça en plus, c'est complètement contre-performant, parce que du coup, l'écoute, la bienveillance qui existe vis-à-vis des victimes de discrimination s'étiole au lieu de se renforcer.
Il nous reste très peu de temps, Natacha.
Rapidement, c'est exactement pour cela que tout à l'heure j'insistais sur la dimension économique du problème et que je crois que dans la promesse républicaine, il y a la question de la méritocratie, de l'égalité, de la possibilité de sortir de son statut et des déterminismes sociaux. Et je pense que c'est une des dimensions qui a été un peu oubliée et que, en effet, ça se transforme en une frustration victimaire, mais que si on ne traite pas le problème à la racine, si on ne traite pas aussi les questions non seulement de discrimination à l'embauche, au logement, mais aussi la pauvreté, tout simplement, petit à petit, la perte de chance de tous ceux qui aujourd'hui sont face à une école qui est la plus inégalitaire de tous les pays de l'OCDE, si on ne traite pas ça, le terme même de laïcité apparaîtra comme une belle abstraction.
Gilles Finkelstein.
Oui, Ali Badou, vous disiez tout à l'heure, il y a des gens qui se sentent discriminés, il y a des gens qui sont discriminés. Et c'est très important, non seulement, et je pense que on disait tout à l'heure que ces débats autour de la laïcité, de l'identité, viennent traverser la droite et viennent traverser la gauche, mais il ne faudrait pas qu'au nom d'une vision abstraite de l'universalisme, de la laïcité, de la République, on en vienne à oublier les discriminations. Donc elles existent, alors l'émancipation, l'école est un moyen de lutter contre elles, mais il faut aussi combattre ces discriminations et les combattre non pas en utilisant les armes, les outils qui sont celles des pays anglo-saxons et qui renvoient justement à l'identité et aux différences de chacun, mais en le faisant avec ce qu'est la beauté de la République.
Ça, c'est peut-être ce qui vous réunit tous les trois, Caroline Forest.
Oui.
Le dernier mot vous revient.
Encore une fois, l'universalisme, c'est cette promesse de pouvoir à la fois n'être ni discriminé, ni assigné. Et il faut marcher sur ces deux jambes. C'est-à-dire qu'il faut nommer, affronter les discriminations quand elles existent et ne pas être réduit ni au statut de victime, ni à son identité. Et ces deux promesses philosophiques que l'on doit tenir, c'est ambitieux. Mais c'est un beau chemin, donc cheminons ensemble.
Cheminons ensemble. Merci pour cette conclusion, Caroline Forest, et merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre livre « Génération offensée » est traduit dans toutes les langues en espagnol. Qu'est-ce que ça donne, Génération en français ?
Génération ofendida.
Bravo ! En tout cas, merci à vous, chers habitants de cette belle ville d'Arras, de nous avoir accueillis. Merci infiniment et c'était très précieux de pouvoir renouer le dialogue, de pouvoir installer un débat apaisé sur un sujet aussi douloureux et compliqué. Merci infiniment à toutes les équipes de Radio France, à Mathilde Clatt qui a préparé cette émission, à la réalisation Marie Mérier, à la technique Tanguy Le Corneau, Nicolas Mathias et Dominique Allard. Et merci à la belle ville d'Arras de nous avoir accueillis et de nous avoir permis de nous installer dans ce beffroi. C'était la première étape d'un tour de France à suivre sur Inter, la librairie francophone.